Posons-nous les bonnes questions pour accélérer la transition écologique des collectivités. Avec Territoire et Sobriété, le podcast de l'ADEME et du ministère de la Transition écologique, partons pour un tour de France d'initiatives locales en faveur de la sobriété matérielle. Retrouvez les épisodes sur www.epargnonoresources.gouv.fr/collectivité.
BFM Business et Tech & Co présente De quoi je me mêle, François Sorel.
Un grand bonjour à toutes et à tous et merci d'être là. Merci de nous suivre pour De quoi je me mêle, votre rendez-vous dédié à la tech chaque week-end. Vous savez quoi, c'est la qui pour De quoi je me mêle. C'est la dernière de la saison, donc on va se faire plaisir avec un 52 minutes exceptionnel, on peut dire, puisqu'on va revenir sur tous les titres d'actualité majeurs de cette saison 2021-2022. Vous savez que dans les médias, l'année ne se déroule pas comme normalement. Voilà, nous, ça commence en septembre et ça se termine en juin. Et croyez-moi, cette année a été très, très riche en actualité tech. Je vous rappelle que vous avez le hashtag DQJMM sur Twitter si vous voulez nous suivre. Et puis, bien sûr, la page De quoi je me mêle sur Facebook. Merci d'être là et bienvenue à vous toutes et à vous tous. Et puis merci de nous suivre donc le week-end sur BFM Business, à la radio, à la télé, mais aussi en replay, en podcast, sur YouTube, en audio, en vidéo. Je sais que vous êtes de plus en plus fidèles à nous retrouver, et puis merci pour ça. Pour ce dernier Club de la presse IT dans De quoi je me mêle, j'accueille Raphaël Grably. Salut Raphaël.
Salut François.
Journaliste donc à Tech & Co, la nouvelle verticale hein, Tech & Co, ouais. Rédacteur en chef adjoint. Nous avons aussi Anthony Morel.
Bonjour.
Salut Anthony. Anthony qu'on ne présente plus, que vous retrouvez tous les matins sur BFM Business, mais aussi chez Estelle Denis,
ouais,
entre midi et deux sur RMC. Voilà. Et invité surprise, mesdames, messieurs, on a sorti notre Easter Egg de cette fin d'année. C'est Nicolas Lelouch. Salut Nicolas.
Salut François, salut tout le monde.
Et je sais que ça va faire plaisir à beaucoup, beaucoup de spectateurs et d'auditeurs de te retrouver. Voilà, ça nous fait plaisir que tu sois avec nous.
Ça me fait plaisir aussi, je suis très content d'être dans l'émission.
Voilà, comme c'est le week-end du 14 juillet, c'est Nico est un peu le feu d'artifice de ce De quoi je me mêle cette semaine.
Waouh. Attention avec les feux de forêt en ce moment, avec les feux
d'artifice. Oui, c'est vrai, faites attention. C'est pour ça que tu peux exploser, mais ici, dans cet environnement.
Ils sont en forme de drone, là, tu sais, ils sont remplacés maintenant.
Oui, c'est aux États-Unis, ils remplacent par les drones.
Et c'est d'ailleurs impressionnant, ces trucs-là.
Une boîte française, Dronizos, qui fait ça, incroyable.
Incroyable. Ça dessine des trucs, ça écrit des
milliers de drones en chorégraphie, tu fais des trucs absolument fous.
Et donc, Nico, que vous pouvez lire et voir aussi, puisque tu es chef de rubrique chez Numérama.
C'est ça. J'ai changé de vie.
Tu as changé de vie.
Même ici, aujourd'hui, avec grand bonheur.
Eh bien, voilà, plaisir partagé. L'actualité, donc, on va revenir sur ce qui s'est passé ces derniers mois. Alors, vous savez qu'on a fait une petite conf de rédac avant de commencer et franchement, c'était chaud parce qu'il y a plein de sujets qu'on ne pourra pas aborder parce que vraiment, l'actualité est a été très, très dense. Mais on ne peut pas passer à côté quand même des facéties de notre Gérard Majax des réseaux et de l'innovation. Quand même, c'est Elon Musk qui, de rebondissement en rebondissement, aura marqué cette saison 2021-2022. Franchement, on dirait qu'il travaille pour nous, en fait. J'ai l'impression que c'est notre rédacteur en chef, Elon Musk, Raphaël. Non, qu'est-ce que t'en penses?
Tous les matins, moi, je me réveille en voyant ce qu'il a fait pendant la nuit. Puis après, vers 15h, quand il se réveille, lui, ça dépend où il est. En fait, ce qui est intéressant, bon, alors, on rappelle quand même les faits rapidement. Donc, Elon Musk avait dit qu'il rachèterait Twitter. Oui. Après, il a dit oui, mais enfin, finalement, il y a quand même des faux comptes. Alors, les faux comptes, c'est important pour les réseaux sociaux parce que ils gagnent de l'argent grâce à la pub. Donc, si c'est des faux comptes, ça veut dire qu'il n'y a pas de pub qui s'affiche, donc ça rapporte beaucoup moins que prévu. Ça, c'est un argument qu'il a sorti après sa proposition de rachat. Puis, il y a eu l'eau dans le gaz depuis à peu près un mois et demi. Il a commencé à se moquer aussi régulièrement des cadres de Twitter, du patron de Twitter. Il avait même publié un célèbre emoji crotte en réponse à la défense du patron de Twitter sur les faux comptes. Un emoji crotte qui est d'ailleurs dans la plainte que vient de déposer Twitter contre Elon Musk, puisqu'évidemment, Twitter dit « vous êtes engagé à racheter ». Évidemment, l'histoire...
Qui aurait pu imaginer
les avocats qui vont plaider?
Il y a l'emoji crotte. Mais ça va être encore mieux que le procès Amber Heard et Johnny Depp, à mon avis, ce truc. Voilà, donc Twitter qui voudrait quand même se faire racheter, parce que derrière, il y a évidemment une histoire de très gros sous.
C'est dingue, parce que si tu le coupes derrière toi, on voit Elon Musk danser.
Rien ne va.
Complètement surréaliste à ce truc-là, tu sais.
Rien ne va dans ce monde. Rien ne va.
Justement, finalement, que tout ça, c'était pas hyper prévisible quand on connaît
en fait, exactement.
Bien sûr. Mais tu sais qu'il y a des théories, c'est limite complotiste, mais des mecs qui disent qu'il l'a fait exprès, en fait, qu'il avait pensé de bout en bout au fait qu'il allait casser le jouet Twitter.
Et il a vendu le tout à Netflix, à mon avis.
Oui,
ou à Apple TV, ou
non, mais c'est ça, tu vois. Parce qu'on sait qu'à la fois, il est tout le temps sur Twitter, mais qu'il aime pas Twitter. Il en a raconté les travers à de nombreuses reprises sur le fait que voilà, c'était trop à gauche selon lui, qu'il n'y avait pas une liberté d'expression suffisante. Et donc il y a des mecs qui estiment que, en fait, dès le début, il avait prévu d'acheter Twitter pour ensuite en casser la réputation en disant mais non, mais regardez, de toute façon, c'est bidon, il y a plein de faux comptes. Bon, puis finalement, j'en veux plus. Et puis une fois le jouet cassé, bah, il a perdu toute sa valeur, quoi, finalement.
Donc, oui, je sais pas. Oui. Alors le problème, c'est que le fait de casser ce jouet, ça peut coûter cher. Ça peut coûter très cher parce qu'on rappelle. Il a proposé 44 milliards de dollars pour Twitter, ce qui n'est pas déconnant par rapport à ce que ça valait, notamment l'été dernier, ça valait à peu près ça.
Oui.
Donc 54
dollars. Ouais, aujourd'hui.
Sauf que ça s'est. L'action
n'est plus à 54.
Alors, déjà, à côté Twitter, l'action a vachement baissé. C'est pour ça qu'ils attaquent Elon Musk, parce qu'il dit justement, vous avez déstabilisé l'entreprise à l'arrivée.
Et c'est à cause de vous qu'on est à 34 aujourd'hui.
Voilà, et ça a perdu quasiment. ça a perdu quasiment. 17 milliards de dollars, je crois. Et donc, in fine, Twitter pourrait presque réclamer
les dommages d'intérêt.
Et bien plus que le milliard dont on parle souvent sur l'indemnité, non. Ouais. Ça pourrait être des dommages d'intérêt, ça pourrait être plusieurs milliards de dollars. Mais en fait, la baisse qui est vraiment importante dans cette histoire, ce n'est pas celle de l'action Twitter, c'est celle de l'action Tesla. Ouais. Et parce qu'en fait, pour payer ça, Elon Musk, la fortune d'Elon Musk, c'est quoi ? C'est pas du cash sur son compte en banque, c'est des actions Tesla. Donc, il faut vendre des actions Tesla pour les transformer, finalement, en actions Twitter. Le problème, c'est quand l'action Tesla chute de 30% comme c'était le cas, ben, les reventes pour acheter, ils font revendre beaucoup plus. Donc, ça coûte bien plus cher. Et donc, évidemment, c'est ce que tout le monde pense être le vrai motif d'Elon Musk. Et puis, la vraie question, c'est est-ce qu'on est à la fin de l'histoire ou au début ? Moi, je pense qu'on est au début de l'histoire. C'est-à-dire que ça, c'était l'introduction. C'est-à-dire le deal initial et l'introduction.
L'appetizer.
Voilà, et puis après, la vraie histoire Musk-Twitter, ça risque d'être une histoire évidemment judiciaire qui pourrait s'étaler sur des mois et des mois. Donc tu disais que Musk avait fait la saison 2021-2022.
Il risque de faire l'autre.
Il risque de faire la saison 2022-2023.
Ce qui est assez savoureux en plus, quand, je ne sais pas si tu te souviens, mais l'un des premiers trucs quand il a annoncé, c'était une grosse surprise, hein, qu'il voulait racheter Twitter. Il avait dit, non mais moi les gars, voilà, je vous annonce cette somme-là, 44 milliards de dollars, et je ne bougerai pas. Moi je ne suis pas du genre à négocier, à faire
c'est
durer
vrai.
Les choses.
Vrai,
je vous donne le prix, vous dites oui ou non, c'est fini, on signe.
C'était là, en avril ça, je crois.
C'est ce que dit d'ailleurs Twitter dans la plainte. Il dit bien, Elon Musk, quand il nous a parlé de ce deal, il nous a dit voilà, je vous donne
ça.
Et je ne demande pas d'enquête supplémentaire.
Exactement.
Voilà.
Et il jouait la carte du je donne plus que ce que ça vaut, comme ça je suis inattaquable, vous êtes obligé de me donner l'entreprise. Donc il savait très bien que c'était surévalué au moment de la proposition. Donc c'est pour ça que c'est très hypocrite aujourd'hui de prétendre que c'est une arnaque et qu'il était au courant de rien. Mais bon, c'est comme ça que ça fonctionne, le monde des affaires.
Mais ce qui est fort, comme à chaque fois avec Elon Musk, fort ou insupportable, ça dépend du point de vue duquel tu te places, mais c'est sa façon de tout tourner à la dérision en permanence. T'as l'impression que tout, il en a rien à foutre, quoi que ce soit.
Oui.
Tu vois, sur cette affaire, là, depuis le début de la semaine, mais il enchaîne les tweets ironiques,
Il fait des mèmes.
Ouais. Tu vois, t'as un mème avec Chuck Norris devant un échiquier, en mode, voilà, on va jouer une partie d'échecs entre moi et
mais
Twitter.
Il faut pas oublier que ce gars-là n'est pas comme nous.
Non, mais bien sûr.
Il est atteint du syndrome d'Asperger, donc rappelons qu'il est légèrement autiste, hein. Très légèrement.
Je crois que ça va au-delà de ça.
Non, mais attendez.
Zuckerberg aussi, hein, et puis bon.
Mark Zuckerberg, il est un peu bizarre quand même.
Ce que je veux dire, c'est que Elon Musk, je pense qu'en dehors de la partie mentale et syndrome d'Asperger, c'est simplement un type qui est profondément punk, en fait, et qui en a rien à faire, et moi c'est ce que j'aime chez lui et c'est ce qu'on aime aussi
il est rock'n'roll.
Et puis finalement il met aussi tout le monde derrière lui, c'est-à-dire qu'il crée une espèce de communauté. Je veux dire, demain c'est Elon Musk fait de la politique, il a derrière lui une communauté. Alors il va cliver, c'est vrai, mais alors il a des fans absolus. Et moi,
je voterais pour Elon Musk si j'étais américain.
De toute façon, j'ai un doute. Je ne suis pas sûr qu'il soit.
Il est sud-africain. Il est né en Afrique du Sud et on peut pas être candidat à la présidence.
Voilà, si on n'est pas né aux États-Unis. C'était toute l'histoire avec Obama d'ailleurs et Trump qui faisait.
Il a été gouverneur de
Californie, mais il ne pourra jamais être président des États-Unis parce qu'il est né en Autriche.
Et Trump faisait croire qu'Obama n'était pas né aux États-Unis spécialement pour ça.
Donc
Elon Musk, je pense qu'il a la nationalité canadienne aussi, si je ne me trompe pas.
Oui.
Je pense que l'américaine, franchement, j'ai même pas regardé. Mais il ne pourra pas être candidat. Après, il peut être gouverneur plutôt du Texas que la Californie, du coup, je pense, vu.
Mais il a ce côté très, pour rebondir sur ce que tu dis, moi, à chaque fois, il me fait penser à Tony Stark, tu vois. Enfin, c'est vraiment.
Ouais.
Mais d'ailleurs, Favreau dit qu'il s'est inspiré d'Elon Musk quand il a imaginé sa version, sa vision de Tony Stark dans les films. Et c'est vraiment ça. tu sais, le côté détaché de tout, au-dessus des réalités du monde, je suis milliardaire mais j'en ai rien à faire, je troll comme un malade, je me comporte pas du tout comme les autres grands patrons. Il y a vraiment ce côté, ouais, punk, c'est une bonne définition aussi, ouais, je suis d'accord.
Mais c'est, moi, c'est ce que j'aime, enfin voilà, c'est, je trouve que c'est quand même bien d'avoir quelqu'un comme ça, enfin en tout cas,
oui,
ça dépend de quel point de vue
on est convaincu. Qui n'est pas policé, on va dire, très, très...
Non, voilà, c'est sympa à commenter. Après, sur le fond, il y a beaucoup, beaucoup de choses
et
à
puis
dire.
Ça peut avoir des impacts et des effets collatéraux qui peuvent être assez violents. Hein.
Voilà, c'est amusant en apparence, mais là, il crée du mal, et pas que sur ces thématiques-là. Il y a plein d'employés qui sont dans le doute depuis plusieurs mois. Il y a eu des articles sur des burn-out.
Ça, on voit qu'ils s'en foutent.
Il y a un problème de communication. Il insulte des cadres de Twitter, et quand il insulte quelqu'un publiquement, il sait très bien que tous ses fans vont commencer à l'insulter. Il joue sur des choses qui, normalement, ne devraient pas sortir de la bouche d'un milliardaire et d'un chef d'entreprise. Enfin. Je trouve qu'il est de plus en plus controversé dans ses prises de parole.
Dans les appels au harcèlement,
il est très intéressant, il fait bouger les choses, mais derrière, Elon Musk est de plus en plus étrange, et là, sa gestion de l'affaire Twitter, c'est vraiment assez triste.
Juste une chose quand même, il faut peut-être aussi prendre un peu de recul et se dire que ce gars-là, au-delà du fait qu'il n'est pas forcément comme nous dans sa manière de fonctionner mentalement, c'est quelqu'un qui doit avoir une pression phénoménale sur tout ce qu'il vit, sur tout ce qu'il touche,
j'imagine,
sur la popularité qu'il a. Est-ce que finalement, on le voit, il y a des rockstars qui pètent un câble, qui pètent des plombs. Est-ce qu'il n'est pas en train de péter un plomb, tout simplement?
Ça, je ne sais pas, je ne suis pas psychologue, mais ce qui est sûr, c'est qu'il a un emploi du temps très chargé, peut-être trop chargé.
Je me dis que voilà, il est tellement scruté par des milliards d'individus aujourd'hui que ça doit être violent quand même de vivre ça au quotidien.
Puis à un moment, c'est aussi, je te dis, enfin, en termes d'emploi du temps et de charge mentale et physique, ça devient aussi compliqué. Et c'est ce qui faisait peur d'ailleurs aux actionnaires de Tesla, hein, quand il a annoncé le rachat de Twitter, l'action Tesla mécaniquement perdu, non seulement parce que les gens se disaient oui, il va devoir vendre des actions Tesla, mais c'était aussi comment est-ce qu'il va répartir son emploi du temps s'il doit s'occuper de Tesla en plus de Twitter, de SpaceX, de ses projets un peu dingues, genre Neuralink, The Boring Company, et j'en passe, et des meilleurs. Il y a un moment, je veux dire, tu peux pas tout gérer non plus, c'est un petit peu compliqué. Faut quand même, alors, lui donner crédit pour ça, parce que on le traite de troll depuis tout à l'heure, à juste titre, et vraiment complètement, mais il y a quand même les accomplissements qui sont réels et qui sont très spectaculaires, et pour moi, ça reste quand même le roi de la tech 2022, si on doit faire un peu un petit best-of de cette année, parce que il y a quand même, quand on regarde, je me suis amusé en préparant l'émission à regarder un petit peu les accomplissements des différentes entreprises de cette année. On a quand même SpaceX qui a envoyé la première mission civile dans l'espace, Inspiration, donc c'était quand même pas rien non plus, c'est un vrai truc, tu vois, enfin, aujourd'hui, coller des fusées, il les fait atterrir.
On parle de lui aujourd'hui. Par rapport à ça, il a complètement bouleversé notre plein d'industries et le quotidien de millions de gens.
Mais maintenant, on commente plus justement ses activités trollesques que sa réalité industrielle qui aujourd'hui est quand même indiscutable.
Oui, mais parce que
c'est lui qui le provoque, ça.
Personne
ne le force à citer n'importe
quoi. C'est presque incohérent par rapport à tout ce qu'il a fait auparavant. C'est ça le truc.
Mais de toute façon, c'était un des points qu'on disait en avril quand il a voulu acheter Twitter, c'est pourquoi Elon Musk va aller dans la galère des réseaux sociaux qui sont impossibles à modérer, qui vont forcément lui provoquer des problèmes de popularité, alors qu'il est sur des entreprises et sur des secteurs où il est tellement crédible que personne ne pourrait l'embêter. Ça n'a aucun sens quand on a SpaceX et Tesla, quand on a aussi bien vu, au moins d'un point de vue industriel, d'aller s'attaquer à un réseau social qui est aussi controversé que Twitter. Ça, franchement, je ne comprenais pas, donc c'est ça que je ne suis pas surpris aujourd'hui qu'il n'en veuille plus. Maintenant, moi, si je peux me faire un petit pari, je ne serais pas étonné qu'il l'achète à la fin. Que dans quelques mois, ils disent « Ah, finalement, je le veux. »
Mais au rabais, il est capable. Pas au même prix.
Peut-être. Pourquoi pas, après tout. S'il doit payer, entre payer 25 milliards de pénalités ou payer 44 milliards pour le réseau social, il vaut mieux acheter le réseau social et en faire un truc,
si on l'accule vraiment.
Enfin, je sais pas.
Bah, il n'est pas exclu que Twitter gagne son procès et oblige Musk à le racheter.
Possible,
c'est-à-dire que même sans le vouloir...
Ça, pas forcément
mais, ça va prendre
non, ce serait pas forcément souhaitable.
Toi, t'es à peu près sûr qu'il va faire n'importe quoi avec.
Oui, non, mais bien sûr. Mais enfin, évidemment, ce qu'il cherche, c'est plus des pénalités, des dommages et intérêts, notamment les actionnaires, mais enfin, les scénarios sont ouverts. Hein. Je veux dire, pour le moment, Twitter, enfin, Musk n'est... Alors, je ne suis pas avocat, mais quand on interroge les spécialistes et quand on lit ce qui se dit dans la presse américaine, Musk ne semble pas en position de force quand même pour négocier cette histoire.
Non, c'est clair. Mais en plus, ce qu'il y a de gênant là-dedans, c'est que ça va sans doute ralentir l'innovation chez Twitter, parce que Twitter était entre deux eaux ces derniers temps. Il y a des personnalités, des VP qui ont été virées sous l'influence d'Elon Musk, visiblement, alors qu'il n'avait pas encore racheté Twitter. Donc c'est une boîte qui est un peu comme un bateau ivre actuellement. Mais là, cette histoire, ce procès qui commence, ça va durer des mois, voire des années. Et qu'est-ce qui va se passer? Twitter va souffrir
ils
de tout
couler,
ça.
Hein, ils peuvent couler de cette histoire.
C'est terrible.
C'est aussi
c'est
là
terrible.
Où je nuance le fait que Elon Musk est une personnalité géniale et qui disrupte la tech, dans le sens où il peut en effet couler une entreprise entièrement seulement parce qu'il s'est amusé à faire une offre de rachat qu'il n'avait pas envie de maintenir. Donc là-dessus, c'est le côté moins drôle de toute cette histoire. Maintenant, c'est vrai que si on se contente des mêmes là-dessus, alors je me régale. Hein. Je trouve ça génial.
Non, mais c'est ça, c'est très superficiel parce que derrière, comme tu disais, tu mettais le doigt sur des problématiques, le cyberharcèlement, des comportements qui ne sont pas raisonnables et sur le fond, c'est évidemment condamnable. Mais ce qui est vrai, c'est que sur la forme, j'enlève les tweets qui visent des personnalités précises, mais c'est vrai qu'il a une façon de communiquer qui change un peu.
Complètement.
Et d'ailleurs, encore une fois, je reviens sur la plainte de Twitter. Si on regarde les, je sais pas, il y a 90 pages, je crois, il y a une grosse partie qui se concentre sur les tweets d'Elon Musk. C'est-à-dire qu'il y a des captures d'écran avec tous les tweets. Et finalement, en fait, il fait tout par tweet. Mmh. Un peu comme Donald Trump en son temps,
beaucoup,
et donc
oui.
beaucoup comme Donald Trump en son temps, et encore plus qu'avant, je trouve, et de façon effectivement toujours plus extrême. Et malgré, quand même, il a un passif, il a failli quand même payer très cher sur Tesla hein, quand il avait dit qu'il voulait éventuellement sortir Tesla de la bourse. Il me semble que c'était.
Et ouais, s'était fait taper sur les doigts par la SEC, le gendarme américain de la bourse.
Ouais, ouais,
donc il a déjà été averti.
Bon, voilà, pour Elon Musk. Alors, messieurs, est-ce que vous pensez que c'est plutôt un top ou un flop, cette histoire de Twitter sur l'année? On va essayer de décerner des tops et des flops. Les awards top ou flop.
Sur Twitter, c'est dur de dire que c'est un top. Moi je garde Musk pour l'ensemble de son œuvre sur cette année. Pour moi, c'est un top. C'est-à-dire que je garde SpaceX, je garde Tesla avec la Model 3 qui est la voiture la plus vendue en Europe
oui,
à la fin de
Starlink,
l'année 2021.
Bien sûr.
Starlink, dont on a beaucoup parlé avec la guerre en Ukraine. Enfin voilà, pour moi, tout ça, c'est quand même incontestable. Après, Twitter, ouais, il s'est un peu vautré.
Il s'est un peu lâché, Raphaël.
Moi, un flop pour deux raisons. Pour deux bullshit, en fait, deux arguments bullshit d'Elon Musk. Un, les bots, ça c'est bullshit parce qu'il dit, il semble avoir découvert les 5% de faux comptes, c'est ce que Twitter dit depuis maintenant 8 ans à la SEC tous les ans. Donc ça c'est totalement fake, on sent que c'est un faux argument. D'ailleurs, il disait avant de racheter les bots, c'est un fléau sur Twitter, etc. Donc il fait mine de le découvrir parce que l'action Tesla baisse, donc ça c'est un vrai flop. Et l'autre partie bullshit, c'est quand il avait dit « moi je vais libérer la liberté d'expression sur Twitter » et encore une fois, on sait que c'est totalement faux. Il l'a dit d'ailleurs lui-même, entre les lignes, c'était comme les petites étoiles, après faut lire en bas, c'était sous réserve du respect de la loi. Sauf que le respect de la loi, en fait, Twitter, si on regarde le règlement, est déjà assez proche de la loi. Donc en fait, Elon Musk, sur la liberté d'expression, c'est pour ça que je dis souvent « c'est un libertarien du dimanche ». C'est-à-dire qu'en fait, il n'aurait absolument rien changé du tout. Au contraire, il n'aurait pas du tout recruté de modérateur, donc il aurait accentué les problèmes, mais sans finalement changer l'ampleur de la liberté d'expression.
Bon, Raphaël, top ou flop?
Alors, Nicolas.
Excuse-moi. Excuse-moi, Nicolas.
Pas de soucis, c'est pour que les gens puissent suivre.
Il n'y a pas de Raphaël dans le plateau.
Je vais pas trop mouiller sur ce sujet, je me mouillerai plus sur les autres. Un peu les deux, parce que les tops, parce que il est aujourd'hui la personnalité la plus importante de tout l'univers des nouvelles technologies. Donc là-dessus, rien à dire, c'est un top. Maintenant, je trouve que malheureusement, il a montré cette année que tout le délire qu'il nous vend depuis 10 ans d'être le sauveur de l'humanité et celui qui va nous permettre de devenir une civilisation plus moderne est complètement faux et qu'il est une personnalité un peu comme les autres, très narcissique, qui va faire énormément de bonnes choses, mais qui est malheureusement trop déconnecté de certaines réalités pour être le sauveur qu'on attendait tous.
Ouais, espérons qu'il puisse rebondir avec un autre projet qui nous fasse rêver, parce que c'est ça aussi. Enfin, il a inspiré, il inspire encore énormément de gens.
Son robot qu'on voit
son
derrière.
Son robot, là. On n'a pas eu de bonnes nouvelles.
Ça pourrait être un flop, parce qu'il a présenté un robot qui est quelqu'un avec des collants.
Non,
c'est
mais oui, bien sûr.
Bon,
mais...
après, ça, c'était une petite chorégraphie. Je pense que c'était un effet d'annonce.
Ils en diront plus en septembre. Il y a les Tesla AI Days, les journées d'intelligence artificielle, où, a priori, ils devraient faire des annonces un peu plus précises. Après, c'est vrai que Elon Musk, il y a toujours ce mélange entre...
C'est vrai que c'est quand même... Il dit, j'ai créé un robot.
On dirait un tournage de série Z.
Au fond, il troll quand il fait ça.
C'est évidemment du second degré.
Je pense qu'il est évidemment du second degré. Non, mais il a quand même prouvé par le passé qu'il arrivait à délivrer des trucs tangibles, sérieux. Donc voilà, pourquoi pas.
Mais SpaceX et Tesla, rien à dire. Je ne peux que m'incliner devant tout ce qu'il a fait.
Tiens, puisqu'il nous reste encore quelques minutes pour la première partie de ce De quoi je mêle, j'aimerais qu'on revienne aussi sur le cimetière de la tech de l'année 2022. Parce qu'il y a eu quand même pas mal de trucs qui ont disparu. Alors, il y en a quand même un qui a marqué, qui nous a marqué tous, c'est une invention d'Apple qui a décidé de disparaître cette année, qu'Apple a déconnecté en quelque sorte, a débranché. C'est l'iPod quand même, les amis. Et ça, c'est pas n'importe quoi.
Oui.
C'est une page de la tech qui se tourne. Rappelez-vous, début des années 2000, Steve Jobs présente l'iPod. À l'époque, les baladeurs MP3, c'était vraiment le truc des happy few, des geeks, etc. etc. Hein. On avait encore des lecteurs de CD. Hein, je ne sais pas si vous vous souvenez. Et puis voilà, l'iPod est arrivé.
Qui est peut-être le produit qui a rendu Apple cool, qui a rendu Apple ultra populaire. Les écouteurs, dans la biographie de Steve Jobs, c'est expliqué que c'est même pas l'iPod le vrai succès, c'est les écouteurs blancs dans la rue que tout le monde avait, ouais. Qui fait que les AirPods sont
devenus ultra
populaires.
Parce qu'à l'époque, ils étaient tous noirs, en fait.
Oui, et les gens se sont mis à acheter les écouteurs des iPods pour les brancher à leur baladeur CD en attendant de passer à l'iPod. Donc, il y a eu vraiment un vrai effet de mode. Ce produit-là, bah, il a lancé Apple dans une nouvelle ère, hein. Certes, dans une ère beaucoup plus petite que celle de l'iPhone un peu plus tard, mais il a permis à Apple de devenir une marque grand public. Ouais. Ça a révolutionné la manière dont on écoute la musique. Il y a eu l'iTunes Music Store après qui a permis d'acheter les morceaux à l'unité. Ça aussi, c'était inédit et ça a revu complètement la relation entre les gens, les maisons de disques, les artistes.
Il a bousculé les maisons de disques aussi, Steve Jobs.
Il a révolutionné le monde de la musique. Hein.
Voilà.
Il a complètement changé
l'univers musical.
Je ne sais pas si vous vous souvenez, au début, il n'y avait pas toutes les majors qui étaient sur iTunes. Ouais, non, il y en a qui faisaient de la résistance. Il y avait des DRM au départ. Vous étiez obligé de transférer la musique via iTunes. Et puis, des fois, ça ne marchait pas parce qu'il y avait des problèmes de DRM, etc. Et puis, Steve Jobs est monté au créneau pour faire péter les DRM. Mmh. C'était lui qui avait fait du forcing auprès des majors pour dire arrêtez avec les verrous sur les chansons.
Il a fait avec les majors ce qu'il a fait après avec les opérateurs. C'est-à-dire qu'au début, les majors disaient non, nous, on est plus fort que l'iPod.
Ouais.
Non,
puis,
on n'est pas plus fort que l'iPod. Ça a fait pareil avec l'iPhone. On est plus fort que l'iPhone. En fait, pas du tout. Et non, l'iPod, ce qui est intéressant, mais ce que tu disais, Nico, c'est que c'est le premier produit Apple qui attire les gens qui n'ont pas d'ordinateur Apple. C'est la première fois que Apple vend massivement un produit qui est
c'était
déconnecté.
C'était l'ouverture vers le grand public, en fait.
Exactement.
Et ça, sortait des happy few, des fans d'Apple.
Exactement. Et Apple avait entamé une bonne tendance avec le nouvel iMac transparent, qui est vraiment un produit iconique. Mais là, c'était le premier produit Apple pour ceux qui n'avaient pas d'ordinateur Apple. Et ça, pour moi, ça change tout. Et c'est évidemment... c'est un pré-iPhone, en fait. Enfin, je veux dire, moi, je me souviens, en 2007, quand Steve Jobs a annoncé l'iPhone, alors oui, il disait que c'était un outil de communication Internet, ok. Mais enfin, pour l'essentiel des gens, parce qu'il n'y a pas l'App Store, pour l'essentiel des gens, c'était enfin un iPod qui fait téléphone.
Ah,
parce que moi, j'en avais marre d'avoir mon téléphone dans une poche et mon iPod dans l'autre. Et donc, c'était surtout un iPod qui faisait téléphone avant d'être le téléphone qui avait les applications, etc. C'est finalement grâce à ça. Donc, c'est un pré-iPhone. Donc, c'est évidemment, d'un point de vue symbolique, même financièrement, ça représentait pas mal. Par rapport à l'iPhone, évidemment, c'est pas grand-chose. Mais pour moi, c'est le tournant. D'ailleurs, c'est le tournant du siècle, hein, puisque ça arrivait en 2001.
Eh oui. Anthony, l'iPod, j'imagine que tu as comme nous tous des souvenirs assez personnels de ce truc-là.
Moi, j'ai jamais eu d'iPod. Alors, je sais pas pour.
C'est vrai.
Moi, j'avais un lecteur MP3. Tu faisais tout à fait
classique.
T'avais un
Arcos? Non, quand même
non,
pas.
Non, c'est pas un Arcos. Non, je sais même plus. Je saurais même plus dire la marque.
C'était
un Sony. Ouais, c'était un Sony.
J'ai vu aussi qui était pas mal.
C'est un petit. Là, j'aimais bien. Il était stylé. Je suis pas passé aux écouteurs blancs, tu vois, et tout ça. Mais
dans cette tendance. Ouais. Dans la rue.
Non, c'est clair. J'ai passé l'effet de mode, mais ouais, je me souviens exactement comme toi, Raphaël, du moment où on a lancé l'iPhone et où on le présentait comme un iPod qui téléphone. Et c'est vrai que c'est ça en fait. Ça montre à quel point ça a été un appareil hyper important dans l'histoire d'Apple et dans l'histoire de la tech.
Et puis, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y avait des iPods qui avaient des dizaines et des dizaines de gigas de stockage, les gros, là, les blancs. Il y avait cette notion de liberté de se dire qu'on pouvait stocker toute la musique du monde, quasiment, en tout cas, toutes nos chansons préférées, sur un seul unique appareil. Ça, c'était quelque chose qui, intellectuellement, n'était pas possible avant.
Ils sont devenus collecteurs.
J'avais des potes qui stockaient toute leur musique précieusement sur leur iPod, et c'était leur kiff, en fait.
Bien sûr.
Le fait de se dire, voilà, parce que Spotify n'existait pas encore, tu n'avais pas cette notion de musique à volonté, etc. Et tu stockais toute ta musique sur l'iPod.
Ce qui est amusant, c'est que d'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui ensuite ont eu un peu mal au cœur en passant un forfait streaming parce qu'on se dit j'ai payé 5 000, 10 000 euros pour ma bibliothèque, dont on est très fier. Et puis finalement, pour 9 euros, je fais un reboot, mais j'ai tout.
Et, voilà,
et donc, moi, je connais des gens qui n'ont pas voulu s'abonner à Spotify alors qu'objectivement, ils continuaient à acheter en fait plus de 9 euros de musique par mois. Donc, autant s'abonner à Spotify, mais par principe, parce que du coup, on perdait évidemment tout ça.
Donc, autant quand tu as des vinyles, tu gardes ta collection physique, autant qu'un iPod. T'as que des morceaux.
Et on peut pas les transmettre à ses enfants. Je crois qu'il y avait un procès ou une histoire avec Bruce Willis qui avait voulu transmettre sa librairie iTunes à ses enfants. Et en fait, non, on n'était pas propriétaire, même quand on achetait le fameux morceau à 1 $, enfin à 99 centimes, on n'était pas propriétaire, on avait un droit d'usage. Donc il y avait aussi cette question sur la propriété de la musique. Quand on parle de changement de modèle, on parle de ça aussi d'ailleurs. Ouais.
Alors, donc, on a parlé de l'iPod, mais il y a d'autres technologies aussi qui ont tiré leur révérence. C'est quand même Internet Explorer.
Oh, oui.
Alors bon, Internet Explorer, on a l'impression que ça fait des années qu'il a tiré sa révérence.
Ah, mais là, c'est là, pour de vrai.
C'était officiellement, Anthony.
On
hein.
peut lancer la marche funèbre, là.
Moi, je mettrais une musique un peu plus sympa, d'ailleurs, de célébration.
C'est dur. Pas moi, j'allais réhabiliter Internet Explorer. Voilà.
Pas funèbre.
Parce que... Non, mais parce qu'il est, c'est vrai qu'il est de bon ton, et je peux pas me cacher que moi aussi je le fais parfois, de se moquer d'Internet Explorer.
Avec la tombe, si
vous voulez.
L'épitaphe, c'était un bon outil pour télécharger d'autres navigateurs.
Mais oui, c'est vrai. La blague éternelle, effectivement.
C'est un peu le cas parfois avec Safari aussi, d'ailleurs.
C'est vrai aussi. Non, mais c'est vrai, mais c'est quand même un morceau de l'histoire d'Internet. Voilà, ça a été l'accès, notre premier accès à Internet, pour beaucoup d'entre nous, en tout cas. Voilà, le gros E bleu avec, entouré d'un cercle. Ah oui, on a tous cliqué dessus. Et il y a un moment dans l'histoire où il y avait 95% des gens qui accédaient à Internet par Internet Explorer. Alors oui, c'est sûr que c'était un monopole incroyable et qui était forcé par Microsoft, parce qu'effectivement, ils installaient Internet Explorer partout et qu'ensuite, ça a été remis en cause.
Et oui.
Par les régulateurs, ce qui a un peu sonné le glas pour eux, puisque à un moment on a dit bon bah les gars, maintenant quand les gens auront Internet Explorer, il faudra que vous leur proposiez également la concurrence et on verra ce qu'ils choisissent. Et en général, ils choisissaient pas Internet Explorer, bizarrement. Mais quand même, pour moi, c'est une petite Madeleine de Proust technologique. Voilà, donc je le garde comme ça. Et vous savez qu'il y a des pays où c'est très compliqué parce qu'il y a encore beaucoup d'entreprises qui tournent sous Explorer, enfin qui utilisent en tout cas
bien
au
sûr.
Quotidien Explorer, et ce qui va poser d'énormes problèmes de sécurité.
Et de compatibilité, bien sûr.
Voilà,
parce que le web évolue entre-temps. Mais voilà. Et aujourd'hui, c'est Chrome qui écrase tout le monde.
Ah oui, qui explose tout le monde.
Oui, parce qu'il faut... Ouais. Pardon, vas-y Nico, vas-y.
J'allais dire que c'est peut-être le truc le plus dommage dans cette histoire, c'est que finalement, la mort d'Internet Explorer n'a pas permis à une concurrence d'exploser. C'est vraiment un seul navigateur qui a marché sur tout le monde et qui, en termes de part de marché, aujourd'hui...
Il y a eu Firefox à un moment quand même.
Oui, il y a eu Firefox.
Aujourd'hui, la domination...
C'est vrai qu'à un moment, il y avait la guerre Internet Explorer à Firefox.
Mais c'est vrai que Firefox est très très loin derrière.
Et ça a donné finalement aujourd'hui Google, qui a débarqué bien plus tard que les autres et qui a écrasé tout le monde.
Après, Chrome est un excellent navigateur. Hein. On peut dire tout ce qu'on veut de Google. Bah,
c'est un peu ce que j'allais dire, c'est que finalement, Internet Explorer est quand même remplacé par Edge et qu'il a encore et quand même énormément poussé sur Microsoft, sur Windows.
Mais c'est drôle
même,
parfois.
Voilà,
même.
C'est abusivement poussé. Mais de alors, façon c'est totalement ridicule.
La
parfois.
Dernière fois.
Et ça prend pas. Donc c'est bien que ça dit beaucoup de choses sur la mainmise de Chrome sur le marché. Ouais.
Et la dernière fois, je passe par Edge pour installer Chrome. Et j'ai un peu peur. Vous êtes sûr que vous voulez pas tester Edge? Mais tu sais,
s'il vous plaît,
mais tentez votre chance, quoi. On va voir. ça sera peut-être bien. Mais c'est terrible quand même.
Ça me fait penser aux allées touristiques où il y a les restaurants et les types avec les cartes.
Regarde,
j'ai à moins 50%, rentre dans mon restaurant.
C'est exactement ça. Ils vont nous donner de l'argent pour qu'on utilise.
Et d'ailleurs, anecdote amusante sur Internet Explorer, ça a été le navigateur par défaut des Mac. On oublie quand même que ce navigateur a tellement d'histoire que quand Apple revient avec Steve Jobs...
Il n'y avait pas encore Safari, c'est ça ?
Il y avait Apple est obligé de faire un deal avec Microsoft pour récupérer de l'argent, et la contrainte c'est qu'Internet Explorer soit installé par défaut. Il y a cette conférence incroyable qui a traumatisé Steve Jobs, il l'a raconté pendant longtemps, où il se retrouve avec un Bill Gates géant sur un écran géant façon Big Brother, et Bill Gates annonce Internet Explorer désormais par défaut sur tous les Mac. Donc c'est assez fou en fait l'histoire de ce navigateur. On se rappelle des dernières années, mais pendant longtemps c'était vraiment... incontournable.
Bon, alors vous savez quoi, on a encore quelques tops et flops. On va retrouver tout ça dans la deuxième partie de Quoi je mêle. Et puis, on a parlé d'Elon Musk. Il faut quand même qu'on dise un mot sur Meta et Mark Zuckerberg, quand même, qui a fait une année quand même assez
exceptionnelle,
assez riche.
Oui, exceptionnelle au sens propre.
C'est ça. Ouais. Deuxième partie de ce De Quoi je mêle dans un instant. Merci d'être avec nous.
De Quoi je mêle sur BFM Business et Tech & Co. BFM Business et Tech & Co présente De Quoi je me mêle, François Sorel.
Voilà pour ce dernier De Quoi je me mêle de cette saison 2021-2022. On reviendra d'ailleurs toute fin août, avant des vacances bien méritées. Eh bien, on revient sur toute l'actualité de ces derniers mois, de cette saison 2021-2022. dans le monde de la tech avec Nicolas Lelouch, qui est bien chef de rubrique chez Numérama. Merci d'être là, Nicolas.
Merci de m'avoir invité.
Et Anthony Morel, que vous connaissez bien sûr, et puis Raphaël Grably, hein, deux journalistes de la maison. On va évoquer dans un instant Meta et bien sûr notre ami Mark Zuckerberg, qui, tout comme Elon Musk, a fait des petits trucs sympathiques cette année, plutôt cool. Mais auparavant, tout à l'heure, on évoquait donc Internet Explorer. Il y a quand même aussi l'iPod, aussi la fin de l'iPod. C'est vrai que cette saison a été marquée par des disparitions, on va dire, des boutons off de certaines technologies. Il y en a quand même aussi d'autres. Alors, Clubhouse n'est pas encore en fonction off, mais c'est pas la folie quand même pour Clubhouse, on est d'accord. Hein. Alors que l'année dernière, moi perso, hein, le premier, j'étais à fond Clubhouse. Hein. Alors, à la fin de Tech&Co, on faisait des Clubhouse, ouais, c'était super sympa d'ailleurs. Hein.
Je suis très heureux de n'y avoir jamais cru. Oui. J'ai toujours dit que je n'y croyais pas. Et j'en suis
c'est vrai, bah oui.
Alors si je peux me permettre, moi je disais, un, que je ne croyais pas du tout à Clubhouse, mais deux, que je croyais beaucoup à cette fonction qui est un peu une forme de radio libre auto-organisée, oui, que je trouve absolument géniale. Et j'adorais ça. Et j'avais dit, alors bon, je ne suis pas pour me lancer des fleurs, mais j'avais dit, pour moi, c'est Twitter qui va récupérer cette fonction. Et du coup, j'en profite parce que moi, c'est, s'il y avait un top à donner, pour moi, Spaces, donc du coup, la fonction Twitter, je trouve ça absolument génial. Ça permet d'avoir une approche totalement différente et de parler avec des gens d'une façon totalement différente. Je n'ai pas d'ailleurs assez de temps pour en faire, pour en organiser ou même pour y participer, mais j'adore écouter simplement les Spaces. Et je trouve que l'outil est absolument génial et parfaitement complémentaire avec ce que propose Twitter, c'est-à-dire du débat, mais aussi quand même, enfin, en général, quand on parle avec quelqu'un à la voix, à l'oral, on ne se comporte pas du tout de la même façon qu'à l'écrit. Ouais. Et souvent, on est quand même plus sympa. Et ça permet aussi d'avoir des échanges un peu plus constructifs.
Oui, oui, oui.
Et donc, je trouve que...
Tu ne te caches pas derrière un pseudo, enfin, voilà.
Ouais, et puis même, quand on parle, on se sent un peu différent, quoi. On n'est pas en train de taper. C'est toujours, c'est toujours plus facile de dire des choses à l'écrit qu'à l'oral. Et donc,
l'oral
finalement... Comment ?
À l'oral qu'à l'écrit.
Bah, ça dépend. Enfin, quand c'est des insultes, c'est plus facile à l'écrit qu'à l'oral. Et c'est plus facile de dire d'autres choses plus sympas et plus constructives à l'oral qu'à l'écrit.
C'est la force
et
de Clubhouse.
Voilà, et c'est la force de Clubhouse. Moi, je ne croyais pas du tout à Clubhouse parce qu'une appli spéciale pour ça, je n'arrivais pas trop à comprendre l'intérêt. Et en fait, je me suis dit surtout que cette fonction, comme beaucoup de fonctions qu'on avait eues avec à l'époque Periscope ou avec Meerkat, qui était la boîte israélienne qui avait lancé ça, Periscope l'avait repris et c'était fini pour Meerkat.
Bah voilà.
En fait, quand on a une fonction qui est aussi sympa, mais qui est aussi simple à dupliquer, matériellement, ça ne peut pas trop marcher et on est obligé de se faire aspirer. Et d'ailleurs, il n'y a même pas de rachat, c'est-à-dire que ça ne sert à rien de racheter une boîte.
Ils ont tenté, hein. C'est ça le truc, c'est qu'ils ont été trop gourmands, Clubhouse, parce que Twitter leur avait proposé 4 milliards de dollars quand même pour les racheter.
Oui, alors, t'as raison, ça je l'avais oublié, ils auraient dû accepter.
Ils n'avaient pas de modèle économique et ils pensaient que les gens allaient télécharger leur application, qui était quand même à l'époque sur un côté membre.
Oui, il y avait cet effet club, mais bon, qui marche 5 minutes.
Au début, ça fonctionne, mais après, dès qu'on est sur une stratégie d'expansion, ça ne pouvait pas fonctionner.
En fait, depuis qu'ils ont arrêté la cooptation, que ça a commencé à ne plus fonctionner, ce qui est intéressant.
Il aurait fallu un autre système. S'ils avaient vraiment un côté plus rémunérateur, bah peut-être qu'ils auraient pu...
Et puis n'oublions pas une chose aussi importante, c'est que cette appli est arrivée dans un contexte de pandémie.
Bien sûr.
Était tous chez soi, souvent bloqués. On s'emmerdait, hein. Et c'est vrai que ce type d'outil était très sympa, ça permettait de recréer du lien, de pouvoir discuter avec des gens des passions communes, etc. Et puis bon, après voilà, heureusement il y a eu le déconfinement et puis on a recommencé à sortir. C'est les sorties, les bars, les restos qui tuent ce type d'appli parce que il faut trouver du temps. J'adorerais, et je suis comme toi, j'adorerais qu'on fasse des Spaces. On va essayer d'ailleurs, sincèrement.
Il faut vraiment
qu'on en fasse parce que moi j'adore discuter avec vous. C'est vrai que nous, là, on est dans notre entre-soi, en quelque sorte. On est dans notre plateau, on discute entre nous, mais pouvoir échanger avec vous, ça serait formidable.
Bah oui.
Et c'est vrai que ce type d'outil permet ça.
C'était aussi le problème de Clubhouse. Il y avait aussi un entre-soi qui faisait qu'il y avait beaucoup de journalistes, de communicants, de politiques.
Tu avais des passionnés qui venaient et qui pouvaient malgré tout participer au débat.
C'est pas le cas sur Twitter. Moi, je regarde le soir, il y a souvent des talks sur le PSG, par exemple, des trucs comme ça.
Mais ça a ouvert le truc.
C'est beaucoup plus ouvert.
Parce qu'il y a une communauté monstrueuse.
Twitter, c'est l'endroit parfait.
C'est les tendances, en fait. Ça va jouer. Par exemple, moi, j'ai beaucoup vu sur les législatives, sur la présidentielle, il y avait des débats après des interventions, après des émissions politiques. En fait, c'est exactement le bon endroit, Twitter, parce qu'on n'aurait pas le réflexe d'aller sur Clubhouse pour écouter le débat de l'émission qu'on vient de voir. Alors qu'on ouvre Twitter, on voit débat sur l'émission de TF1, on se dit, ah bah ouais, cool, je le regarde, et on se retrouve là-dessus, c'est très cool.
Oui, Twitter, c'est le lieu de débat par excellence. Donc, la fonction, qui est une fonction en plus, d'ailleurs, qui n'est pas d'ailleurs monétisée. monétisé. Mm-hmm. Alors, je ne sais pas comment ça peut être monétisable, mais c'est la fonction parfaite pour Twitter. Mm. Et c'est vrai que faire une application spécifique pour ça, moi j'ai un peu du mal, enfin, j'avais un peu du mal à comprendre. Et là, Twitter, encore une fois, c'est vraiment différent. Il y a des gens qui sont vraiment appropriés cette option. Et je trouve que ça permet de mélanger comme ça des gens qui, a priori, ne se parlent pas, ce qui n'était pas le cas sur Clubhouse. D'ailleurs, à l'époque, Clubhouse, on était sur Clubhouse entre gens très technophiles et 90% des débats, c'était sur Clubhouse. C'est-à-dire qu'on parlait sur Clubhouse, de Clubhouse.
Au début, après, c'était, ça a un petit peu évolué.
Oui, c'est vrai, ça. Mais c'est vrai qu'au bout d'un moment, c'était...
C'est vrai qu'on commentait ce truc-là. Voilà. Mais il n'y avait pas que de la tech. Hein. Y avait, on parlait de cuisine, on parlait d'entrepreneuriat... Il y avait plein de sujets sympas, comme sur Twitter Spaces.
Oui, mais il y avait un côté presque un peu LinkedIn, c'est-à-dire on parle de sa boîte, machin. Ouais.
Oui, non, mais c'est vrai.
Il y avait plein de startups qui faisaient des débats sur la liberté d'entreprendre.
Oui,
c'était très peu intéressant.
En effet.
Il y avait le volet crypto, il y avait...
Ouais. Mais tu vois, typiquement, moi, on l'a fait l'année dernière pour Tech & Co, et on avait des débats hyper intéressants, où j'arrivais à avoir des invités dans Tech & Co, et ils poursuivaient le débat en fait dans Clubhouse, et ça avait du sens. Ça avait du sens, tu vois, parce que c'est vrai que dans une émission de radio, tu es toujours limité par le temps, etc. Là, tu pouvais en fait étirer ta discussion. On avait eu notamment un ingénieur de la NASA qui est français et qui est top et qui avait participé à ce truc-là. Ça avait fait un bon moment, un très bon moment.
Ça ressemble un petit peu aux fonctionnalités que tu as sur Twitch aussi en termes d'interactivité.
Mais c'est ça.
Un streamer avec des streamers qui débattent.
Il n'y a pas l'image.
Mais avec la plus l'agilité.
Donc tu n'as pas l'image et sur Twitch, c'est une interaction plutôt avec le chat. Donc en tout cas, tu as ce direct.
Et puis l'audio, c'est magique. Tu le sais très bien, Anthony. Tu fais de la radio comme
évidemment.
Moi, t'as pas besoin d'avoir une caméra et tout, tu fais ça, tu peux être dans ton canapé, dans ton lit, n'importe où, tu te mets tes AirPods et puis c'est parti, tu vois.
Justement, moi je trouve que ce qui est intéressant, c'est déjà, il n'y a pas l'image, donc il y a un côté cocon, on aime tous la radio ici, qui est absolument unique. Et puis souvent, c'est Spaces, c'est le soir, donc comme tu le dis, et ça je trouve que c'est hyper important, on est détendu, on est dans son canapé, dans son lit... on s'est détendu et on parle d'une autre façon. De façon très différente de quand tu es en plateau sur Tech & Co.
Mais
et donc
sûr,
tu apprends et tu as des échanges que tu n'aurais
t'es
pas du
toi,
tout.
Tu es dans un autre contexte.
Tu n'es pas du tout dans le même contexte.
Alors bon, Clubhouse, voilà, compliqué, ça existe toujours, hein, ils ne sont pas enterrés, ce n'est pas comme Internet Explorer, ils n'ont pas encore leur petite tombe, mais bon, ça ne sent pas bon. Hein. Alors là, on pourra avoir la tombe Google Hangouts. Hein, qui a été encore une fois l'un des projets poussés, fonctionnalité poussée de Google, comme Google Plus, etc., qui tombe à la poubelle après. Mais bon, voilà, Google ne fait pas que des trucs qui réussissent.
Bah non.
C'était ambitieux quand même, Hangout, je ne sais pas si vous vous souvenez, c'était toute cette messagerie unifiée qui voulait concurrencer WhatsApp, etc. Et puis bon, plouf, quoi.
Ouais. Oui, bah, c'est une nouvelle application de messagerie Google qui fait un flop, surpris.
Qui va être remplacée par Google Chat, du coup.
La deuxième, oui, c'est
voilà, maintenant,
par...
c'est Google Chat.
Il ouais, n'y a pas grand-chose de plus à en dire, malheureusement.
Oui, non, c'est un truc. Et ce qui est fantastique dans cette histoire, c'est qu'il y avait aussi Google Duo et Google Meet. Donc Google Duo, c'est FaceTime, donc appel vidéo d'un téléphone à un autre. Et Google Meet, c'est Zoom. Et ils ont décidé de fusionner les deux. Mais alors là, je trouve qu'ils font du Google, c'est fantastique. Ils vont fermer Google Duo pour l'intégrer à Google Meet. Mais en fait, c'est l'application Google Duo qui va être mise à jour pour devenir Google Meet. Donc il faut supprimer Google Meet pour récupérer le nouveau Google Meet qui intègre les fonctions de Google Duo.
Il faut lire un PDF de 3 pages pour comprendre.
C'est incroyable. En fait, je trouve que la manière dont ils gèrent leur... Et après, ils se plaignent. Oui, on n'arrive pas à avoir de deal avec Apple pour les RCS, pour les messages. Mais bon, arriver à choisir une application déjà, et après, peut-être que ça sera possible de négocier. Mais c'est hallucinant.
Il y a un dicton qui dit qu'il y a deux choses immuables dans la vie. C'est la mort et les taxes. Et les impôts. Moi, j'ai envie de dire, il y a la mort, les impôts et les flops de Google dans la messagerie.
Tu n'y arrives pas.
Sauf, alors, par contre,
il y a plein de réussites.
Non, chez
Google,
on plaisante.
Sur la messagerie, c'est galère.
Mais par contre, je mets de côté Google Meet, qui, pour le coup, est vraiment génial.
Ouais,
là, je
ne
parle pas
bien
de messagerie parce que c'est vraiment de la visio. Mais Google Meet, en termes de compression, et je ne sais pas s'il y a un lien avec le savoir-faire de YouTube, mais moi, pour tester du Zoom, du Google Meet, du Microsoft Teams quand vraiment vraiment je suis obligé et que j'ai pas le choix, ou d'autres outils, Google Meet, le rapport débit qualité vidéo, je trouve, avec FaceTime d'ailleurs, c'est les deux meilleurs, et donc c'est vrai que là-dessus, sur la visio, Google a vraiment bien réussi pour le coup.
Bon, Anthony,
et qui se souvient de Google Plus?
C'est vrai, Google Plus, non mais c'est vrai, c'est
ils ont lancé des trucs qui se sont plantés, mais bon, c'est
Voilà pour les flops. Est-ce qu'il y en a d'autres? Vous en avez détecté d'autres ou pas?
Ouais, non, c'était pour les rest in peace.
Alors on va se garder quelques minutes tout à l'heure pour les vrais tops de cette année, de cette saison 2021-2022. Mais il faut quand même évoquer aussi, si on revient un peu sur ce qui a marqué ces derniers mois, c'est le virage à 360 mené par notre ami Mark Zuckerberg qui s'est dit, bon voilà, Facebook, tout ça, c'est pas la forme. Hein, j'ai quand même pas mal de casseroles, voire quelques couscoussières quand même. Hein, ça commence à faire du bruit quand
là,
je marche.
On est passé clairement à la couscoussière.
Je lance ma petite bombe de fumée. Elle va s'appeler Meta, et vous allez voir, les gars, bah, on va tout changer.
C'est ça.
Et ça, c'était fin d'année. Hein. Mm-hmm. Et là, on a vu un Mark Zuckerberg dans le métavers, en avatar, en train de sans corps. Ça, c'était cool.
Il faudrait qu'il ait un peu vrillé quand même, Zuckerberg.
et voilà. Alors après, bon, on va en parler. Mais qu'est-ce que vous pensez de ce virage quand même qui est étonnant entre voilà le patron des réseaux sociaux au monde, hein, il faut quand même le dire.
Oui, bien sûr. Bah, Facebook,
vers
Instagram, WhatsApp.
C'est ce nouvel univers qui a l'air de le passionner en plus, parce qu'on sent qu'il est vraiment investi par ce truc-là, qui est donc la réalité virtuelle et la réalité augmentée.
Ça lui permet de s'échapper de la réalité de son entreprise, qui est très compliquée, parce que
sans doute.
Peut-être en un mot, mais il faut refaire la fresque de cette année pour Facebook, parce que ça a été la cata pour Meta ou la Meta pour cata, je ne sais pas trop comment on dit, mais enfin en tout cas, ça a été compliqué. Alors à partir de, effectivement, retour en arrière fin 2021, il y a les Facebook Files qui sortent, enfin toutes les lanceurs d'alerte de l'entreprise qui nous alertent sur le fait que Facebook et Instagram, on va dire, privilégient la rentabilité plutôt que le bien-être de ses utilisateurs et qu'ils sont très au courant que ça crée des problèmes de complexe chez les adolescents, l'utilisation d'Instagram, etc. Mais qui n'en ont absolument rien à faire. Ça commence énorme de... Bah, c'est... Moi, je résume, hein, gros crème. Enfin,
non, mais
ça.
T'es gentil, non, ouais.
Non, mais voilà. Et donc, ça part de là. Bon, c'est pas une très bonne image, évidemment. En plus de ça, ils ont quand même quelques problèmes structurels, c'est-à-dire problème d'érosion des utilisateurs, parce que Facebook... On se moquait de MySpace quand Facebook est arrivé, mais Facebook, c'est le nouveau MySpace. En gros, c'est vraiment devenu le truc de vieux. Et donc, il y a une érosion du nombre d'utilisateurs. Problème de monétisation de leur audience, parce que Apple a changé ses conditions d'utilisation et que maintenant, quand on a un iPhone, on peut choisir de ne plus être ciblé par de la publicité. Enfin, en gros, ça ne fait pas du tout les affaires de Facebook. Ça leur fait perdre de l'argent. Et dans ce contexte-là, alors, est-ce que c'est à cause de ça ou est-ce que c'est dans ce contexte-là? Mais en tout cas, Mark Zuckerberg dit, bon... Je vous présente un nouveau cap, on part dans le métaverse, je vais vous présenter, et alors la version qu'il nous en propose, qui est très différente de la version réelle de ce que c'est aujourd'hui, c'est Ready Player One, donc le film de Spielberg. Vous allez vivre une deuxième vie virtuelle avec un casque de réalité virtuelle, ou pas d'ailleurs, mais enfin bon, ce sera l'une des portes d'entrée. Vous mettrez un casque et vous serez projeté dans un monde incroyablement immersif. Vous pourrez y travailler, vous aurez des écrans projetés devant vous, vous pourrez passer votre vie. Plutôt que d'être en entreprise, dans le métaverse, vous pourrez aller à des concerts, vous pourrez avoir votre maison dans le métaverse, accueillir vos amis, acheter des trucs en NFT, puis comme ça, tout le monde gagnera du pognon avec ça. Les commerçants, les utilisateurs, ce sera formidable. Mais le truc qui nous montre pour l'instant, c'est des images. On se croirait dans un... Voilà, on a souvent pris l'image des Sims. Enfin, voilà, un jeu vidéo des années 90, pas forcément très bien réalisé.
Ça ressemble un peu à Choupi.
Qui arrive en NFT, d'ailleurs.
Ceci dit, Choupi est mieux vu. Choupi est mieux fait.
C'est ça.
Choupi arrive en NFT.
Donc là, il y a un vrai effet déceptif dans le sens où on nous vend un truc qui est incroyable. Et moi, j'attends de voir. Et je suis pas... Je sais que j'attends de ce que vous allez dire, mais je sais que vous êtes très dubitatif par rapport à ça. Moi, j'ai envie d'y croire. Mais c'est vrai que pour l'instant, ce qu'on nous en a montré, c'est un peu ridicule. Voilà.
Oui.
Après, on se dit, voilà, il a brouillé un peu les pistes en lançant ce concept de métavers, mais je pense que ça fait des mois et des années qu'il y travaille, parce que on voit qu'il a racheté Oculus, il pousse le Quest. Le Quest est sorti bien avant son grand délire de pousser le métavers.
On en parlait au début de l'émission. Je ne sais pas si tu te souviens de cette conférence.
Ça fait un moment qui mijote son truc.
Tu te souviens du Mobile World Congress, mais ça devait être, je ne sais pas, en 2012 ou 2014,
avec cette
image
photo incroyable. Ah ouais.
Conférence de presse où on demande à un moment à tous les journalistes de mettre un casque de réalité virtuelle sur la tête. C'était une conférence de Samsung. Hein.
Ouais. Oui, tout à fait.
Et le Galaxy S7.
Exactement. Donc, c'était pour un téléphone. C'était même pas pour un casque de VR. Voilà. Donc, on met le casque de VR sur la tête et donc, on est projeté dans la conférence de presse en réalité virtuelle, etc. Et là, Mark Zuckerberg qui arrive de nulle part, par surprise, et qui se balade dans les rangs. Ouais. Personne ne le voit
parce que tout le monde a le masque.
Et il y a cette photo qui est prise pendant le truc et qui a fait le tour du monde derrière, où on voit tout le monde comme des zombies avec leur casque sur la tête. Et Mark Zuckerberg qui marche au milieu des rangs. Et on se dit, là, c'était
c'est
les prémices du métaverse.
C'est sûr.
Mais oui, c'est ça. Et on était en 2012-2014. Il y réfléchissait déjà.
On ne peut pas lui reprocher de l'effet d'aubaine, en quelque sorte. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui mature depuis quelques années.
Je pense.
Tout son discours méta, il a pas balancé là. Après, moi, le seul truc que je me dis, c'est qu'il est pas, il est vraiment en avance par rapport à l'innovation technologique.
La technologie, oui.
Aujourd'hui, et lui-même le dit, quand on voit, je sais pas si vous avez vu cette vidéo qui est très intéressante d'ailleurs, où il teste, et ça aussi, on peut quand même le féliciter, où il teste en fait tous les concepts les de masque ou de casque qu'il est en train de mettre en place et de voir les avantages, les inconvénients de chacun, etc. Et quand on voit son matos, on se dit, c'est pas prêt d'arriver,
pas prêt.
C'est pas prêt.
J'ai même eu la chance de participer à une conférence vidéo pour Numérama avec Mark Zuckerberg là-dessus, où il avait présenté les casques. C'était hyper intéressant. Et ce qui est rare, en fait, pour un constructeur comme Meta, c'est que ce qu'il disait clairement, c'est aujourd'hui, la techno, elle n'est pas du tout prête. Les casques, ils ont des gros problèmes. Et par contre, c'est là où il a un peu des dérives dans son discours. C'est qu'il dit que pour arriver à son métavers idéal, il faut manipuler le cerveau humain pour lui faire croire que c'est la réalité. Il a expliqué plein de concepts différents sur notamment comment arriver à faire bouger la rétine quand on est à l'intérieur d'un casque avec un écran qui bougerait très légèrement. Du coup, ça nous ferait croire qu'il y a une modification de la réalité. Enfin, ça va très loin dans le raisonnement, mais il y a une vraie volonté pour le coup d'arriver à rendre la réalité virtuelle beaucoup plus réelle qu'est-ce qu'elle est aujourd'hui.
Oui, il dit entre 5 et 10 ans hein, quand même.
C'est ça, pour miniaturiser, à la fois rendre l'image plus réaliste et puis pour miniaturiser tout ça, parce que franchement, il n'y a pas moyen de porter un casque ne serait-ce que quelques heures par jour si on garde les formats qu'on a actuellement.
C'est un des gros problèmes.
Bon, on a fait le tour de Meta. Alors, top ou flop à votre avis, cette année Zuckerberg?
Moi, je dirais
Nico.
Flop total. Ouais, vraiment. Mais parce que je lui en veux... sur un truc en particulier, c'est qu'il a mis le mot métavers dans la bouche de tout le monde, y compris de marques Carrefour, Orange, tout le monde dit métavers partout. Ouais. Et surtout qu'en fait, il y a une confusion immense entre métavers, réalité virtuelle, monde ouvert, plein de choses. Et c'est là où je pense que quand on dit qu'il commençait à y travailler depuis 10 ans, il y a 10 ans, il travaillait sur la réalité virtuelle. Et pour le coup, je suis quelqu'un qui croit énormément à la réalité virtuelle, mais je ne crois pas une seconde en l'acceptabilité dans une société d'un monde virtuel dans lequel on irait le soir. Donc je pense que le métavers n'est pas possible, mais en revanche, que porter un casque de réalité virtuelle pour faire des conférences à la Google Meet, pour voir des amis, pour aller jouer et tout ça, ça l'est complètement si le casque s'améliore. Et encore, il y a toute la question de l'acceptabilité du casque, parce qu'avoir un casque chez soi, c'est une chose, mais dans la rue, c'est une autre, parce que ça cache les yeux, et dans la société, il n'y a aucun pays où on cache les yeux.
Donc, on sait, nous tous, que on est très très loin au niveau hardware de ce type d'innovation.
Oui, bien sûr.
C'est pas possible aujourd'hui.
Moi, ce que j'en veux, c'est qu'aujourd'hui, on a mélangé métavers et réalité virtuelle, qu'on pense que mettre un casque sur la tête, c'est le métavers, et c'est pas du tout le cas. Le métavers en lui-même, il y a quelques applications qui s'y apparentent. C'est très loin de la promesse, c'est très dur d'imaginer que ce soit modérable ou quoi que ce soit un jour. Donc je pense qu'ils ont réussi quelque chose, c'est que finalement on parle très peu de tous les scandales, donc là-dessus c'est réussi. Je pense qu'il y croit vraiment, Mark Zuckerberg, mais on s'est un peu moqué du monde pendant cette année.
Anthony ?
Non, moi je serais un petit peu moins sévère que toi. Alors, j'irais pas jusqu'à dire que c'est un top, parce que ce qui nous a été montré jusque-là, encore une fois, c'est quand même très 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 insuffisant.
Tu mélanges un peu les deux.
Mais il a au moins le mérite d'ouvrir un cap et de nous proposer quelque chose d'autre. Quand il dit, c'est le futur d'Internet, moi, à terme, je pense que les gens n'auront plus de téléphone dans la poche, mais qu'ils auront, alors peut-être pas un casque de réalité virtuelle, mais peut-être des lunettes de réalité augmentée qui permettront aussi d'interagir avec ce métaverse qu'il imagine, et peut-être que ça prendra pas exactement cette forme-là. Pour l'instant, c'est un concept, encore une fois, qui est balbutiant, qui est encore en cours de définition, et sur lequel, c'est vrai, je te rejoins là-dessus, tout le monde ajoute un peu, c'est un peu l'auberge espagnole, et on a tendance à y mettre n'importe quoi aussi, mais je trouve que le simple fait d'ouvrir cette perspective-là, et de dire, peut-être que Internet, ce sera demain, ce sera plus juste ton téléphone ou ton browser sur ton ordinateur, ça pourra passer par cette interaction-là, qui est quand même digne d'un film de science-fiction. Moi, je trouve que c'est intéressant. Voilà. Donnons sa chance au produit, voyons où ça va.
Oui, bien sûr.
On en reparle dans un ou deux ans, et on refait le point.
Avec un masque qui a l'air assez innovant, qui sort à la fin d'année, qui sera très, très, très cher.
Cambria.
Mais qui serait le top du top actuel technologiquement de ce qu'on peut faire en matière de VR. Raphaël,
moi, c'est un flop. Flop pour les raisons que vient de donner Nico, et franchement, j'adhère mot pour mot à ce qu'il a dit, donc j'ai pas la peine de rajouter grand-chose. un top si on se pose du plein de vue du communicant en situation de crise, parce que c'est la meilleure dans l'histoire de la communication.
Ouais, c'est
crise,
le leurre parfait là.
C'est quand même exceptionnel. C'est-à-dire d'arriver, tu parlais d'enfumage plus ou moins tout à l'heure, c'est le plus bel enfumage de l'histoire moderne. Je pense, c'est incroyable. C'est-à-dire qu'Instagram, Facebook, ça devient catastrophique, ils se font exploser de partout, les régulateurs, etc.
TikTok,
ils sortent un concept à la con de métavers qui, dans un an, on en parlera comme de Clubhouse. Voilà, ça n'existera plus dans un an. Et je ne parle pas, encore une fois, mais je reprends ce que tu dis, rien à voir avec la VR qui, là, est autre chose. Mmh. Et je suis sûr que ça peut être un de
C'est plus un
produit.
Problème de vocabulaire, finalement.
Mais voilà, mais le métavers, c'est un mot totalement
fort. C'est eux qui ont provoqué ça.
Donc c'est une communication de crise qui est absolument incroyable et qui a non seulement enfumé tout le monde, ou une grande partie des gens, et qui en plus SM et fait des petits, alors que sur des groupes qu'on voyait pas venir. Donc voilà, moi je suis assez ahuri devant cette situation. Ouais, donc un flop et un top
en matière d'enfumage.
Voilà, exactement. Ou la dire comme d'ailleurs.
Anthony n'est pas d'accord.
Non, je crois pas, parce que moi j'ai pas l'impression. Alors peut-être qu'ils ont tenté une diversion, mais si c'est le cas, ils y sont pas parvenus, parce que. À la fois, on a parlé effectivement beaucoup du métaverse, mais ça ne nous a pas empêché, et y compris la presse généraliste, de parler de tous les déboires de Facebook tout au long de l'année. Il y a eu l'histoire de la mégapagne, il y a eu les Facebook Files, il y a eu le fait qu'ils aient perdu beaucoup d'argent, qu'ils perdent des abonnés. Mmh. Et si tu veux, pour moi, l'un n'a pas empêché l'autre.
Que TikTok commence vraiment à aller à leur beau téléphone.
S'ils ont essayé de masquer un problème avec ce nouveau concept, c'est un peu comme quand tu mélanges, quand tu mets du déo pour cacher une odeur de pied. En général, ça ne marche pas. T'as les deux, en fait. T'as les deux qui se mélangent.
Bon, ils ont du bon déo quand même.
C'est une belle comparaison.
T'as vu l'image ?
Cette image,
je m'en dois s'arrêter là.
C'est l'enfumage au déodorant.
Ouais. C'est l'enfumage au déodorant, ça c'est pas mal. Bon, il nous reste quelques minutes. J'imagine que malgré tout, il y a des petites innovations qui vous ont marqué et qui pour vous sont des tops. Tiens, Nico, qu'est-ce qui t'a marqué toi ? Qu'est-ce que tu trouves de vraiment sympa sur les derniers mois et qui va bouleverser peut-être notre quotidien ?
Ça va bouleverser notre quotidien, mais ce n'est pas tellement une innovation en soi, c'est la nouvelle réglementation européenne qui va forcer les constructeurs à adopter l'USB type C, que je trouve extrêmement intelligente en fait. Et c'est exactement là où j'attends des autorités comme l'Europe, c'est que finalement, on peut dire oui, c'est que pour l'Europe, sauf que jamais de la vie, une marque va fabriquer un téléphone USB-C en Europe et un téléphone Lightning ailleurs. Donc en fait, avec cette réglementation-là, ils ont réglé un problème qui date de 10 ans sur le port universel. Et d'après plusieurs reports, ce ne sera pas le prochain iPhone, mais celui d'après qui va passer à l'USB-C. Et derrière, tous les accessoires, écouteurs, tablettes, etc. vont tous basculer vers l'USB type C.
En fait, il y aura l'USB type C plus de l'induction.
Plus de l'induction. On a le droit, on est obligé d'avoir un port USB-C. Maintenant, si on n'a pas le port, on ne peut faire que de l'induction. Mais du coup, ça va contraindre finalement l'industrie à se déplacer vers ce port unique. Ça va régler un problème à la fois écologique et à la fois pratique qui est immense. C'est pas finalement que des questions financières, l'Europe, c'est aussi des questions de la vie de tous les jours.
Je serais curieux de savoir.
Il y en a qui ont ironisé là-dessus en disant oui, l'Europe, elle a que ça à faire, mais en même temps, oui, je trouve ça intéressant d'aller sur ce genre de thématique.
Est-ce que ça a accéléré le calendrier d'Apple ? Tiens, je serais curieux de savoir si cette obligation européenne accélère le calendrier de switch chez Apple et de passer du Lightning à l'USB-C.
Ça fait 2 ans qu'on dit qu'ils doivent passer au Lightning à l'USB-C en 2023. Sachant que la régulation entre en vigueur en début 2024, donc normalement...
Ouais, le timing est plutôt bon.
Le timing est plutôt bon. Après, la question, c'est aussi de savoir, est-ce qu'il y a 2 ans, ils disaient... Oui, parce qu'en fait, le sujet, il a été mis sur la table déjà il y a 2 ans, de ce projet. Donc, peut-être qu'ils se sont dit, ça devait être 2024, on le fera en 2023.
Je pense
on ne le saura jamais. Mais à mon avis, ça se joue à un an près.
Ce qu'ils s'est longtemps dit, c'est qu'ils voulaient passer uniquement au sans fil, et peut-être que cette régulation-là les a forcés à dire, bon bah tant pis, on mettra un USB-C et on passera pas qu'au sans fil, parce que trop compliqué.
Messieurs, qu'est-ce qui vous a marqué aussi cette année ? Top.
Je suis un peu jaloux de Nico. Non, mais pas l'USB-C, mais j'allais dire aussi la régulation européenne. Ouais. Alors, c'est vrai que tu n'as pas l'USB-C, j'allais la citer. Mais en fait, la régulation européenne, en général, avec les... Alors, c'est un peu technique, le DMA, le DSA, en gros, les nouvelles obligations sur les plateformes, des obligations qui vont imposer des efforts en modération, en transparence.
L'App Store aussi, qui va bouleverser, sur l'iPhone. Parce que si tout suit son cours, dans 2 ans, on pourra choisir... un autre magasin d'applications que celui officiel d'Apple sur un iPhone, ce qui est quand même un truc de dingue quand même.
Et finalement, on dit souvent l'Europe, c'est simplement l'innovation pour la régulation, c'est tout ce qu'on sait faire. Ouais, mais n'empêche qu'on le fait bien. Et je trouve que dans ce rôle-là, je trouve que la Commission européenne est plutôt efficace et fait changer les choses. Et encore une fois, à chaque fois, je trouve, tu parles de l'USB-C, là je parle pour les réseaux sociaux et la modération, il y a un vrai, il y a une vraie plus-value pour le consommateur, le client, l'utilisateur.
Cool. Anthony, le mot de la fin.
Ouais, comme on n'aura pas le temps de parler de l'année record du jeu vidéo, qui était aussi un effet marquant,
Je vais garder. Bah,
justement, voilà, ça va être mon top. Moi, mon top de cette année, c'est Elden Ring, qui est le jeu de l'année de toute façon, ouais, ça c'est sûr, et qui nous montre que voilà, on peut avoir des nouvelles franchises, des nouvelles propriétés intellectuelles qui ne sont pas des jeux AAA qu'on connaît déjà depuis des années et qui peuvent connaître.
On arrive encore à innover.
C'est un jeu extraordinaire, donc From Software. Je pense que tout le monde connaît parmi ceux qui nous écoutent, mais en plus, l'idée incroyable d'avoir, en fait, de baser le succès d'un jeu sur sa difficulté, parce que c'est tout le succès des jeux From Software, hein, les Dark Souls, c'est pareil, c'est vraiment, tu achètes un jeu pour en baver, pour mourir encore et encore et encore et encore, et avec toute la communauté qui s'est créée autour, notamment sur Twitch, c'est une des belles success stories de cette année. Il s'en est vendu 13 ou 14 millions, je crois, à date.
Voilà, et puis, bien sûr... l'épisode PS5 de Raphaël, peut-être pour terminer. Tu en es où alors?
Parce que ça fait deux ans. Ça y est. Non,
est-ce que pour tes vacances au soleil, tu auras une PS5?
Je ne pense pas.
Voilà.
Non, je pense que j'aurai peut-être une PS5 à la rentrée ou en fin d'année.
Ah, d'accord.
Mais ça, non, je partirai sans PS5. Voilà, non, c'est toujours pas de PS5.
Écoutez, parce que je sais que vous êtes très nombreux à vous poser la question.
Et d'ailleurs, je remercie, il y a des téléspectateurs,
des auditeurs
ouais, qui m'envoient des petits messages pour me donner des bons plans et tout. Alors, c'est adorable. C'est vrai que du coup, je suis un peu la fine bouche, mais c'est vrai qu'ils m'envoient des plans souvent où faut payer avec un jeu à 800€ et tout.
Ouais.
Non, je préfère attendre tranquillement. Oui. D'avoir.
Toi, tu veux une PS5 nue, en fait.
Mais oui, parce qu'en fait, moi, je joue.
Il joue pas. Il veut juste la PS5.
Il veut la mettre au loup, bien qu'il est.
En fait, je ne veux même pas la brancher, c'est juste pour la décoration.
C'est ça, mais elle est tellement belle.
C'est un bel objet. Hein.
En fait, moi, je suis vraiment le type qui joue à genre FIFA et les jeux Star Wars. Donc, c'est pour ça que je ne suis pas très pressé et c'est pour ça que je ne vais pas acheter le pack.
Le bundle.
Et le bundle.
Bon, écoutez, c'est sur ces belles réflexions que se termine ce De Quoi Je Mail. On vous souhaite de bonnes vacances. Merci à tous les trois. Merci Nicolas.
Merci.
Merci Anthony, Raphaël. On sera là à la rentrée, bien sûr. Dites-nous un petit peu ce que vous pensez de cette nouvelle configuration où, au-delà d'Anthony et Nicolas, on peut se retrouver à plusieurs pour débattre de l'actu tech. Voilà, c'est toujours intéressant d'avoir votre point de vue avec le hashtag DQJMM sur Twitter. Merci de nous suivre encore une fois. Bonnes vacances, profitez bien, reposez-vous bien, on sera là à la rentrée, bien évidemment. Salut à tous.
De quoi je me mêle sur BFM Business et Tech & Co.